Écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Je vous invite avec cette émission à explorer le Pays de Grâce historique. Alors que la reconnaissance du parfum comme patrimoine immatériel de l'UNESCO s'en vient, soit fin 2017, soit en 2018, je vous invite à découvrir ce Pays de Grâce. Et pour moi, la meilleure approche est le Pays de Grâce historique, 42 villages autour de la cité de Grâce. Ce pays qui intègre Seyans, désormais dans le Var, Saint-Auban, Collongues, Roquesséron, Courcegoule, Roquefort, Valbonne, Montsartou, Auribeau, Le Tanneron, qui sont les frontières de ce pays, eh bien, il existe très peu de documents. Il y a cependant un ouvrage qui s'appelle Pays Grassois, de Georges Giblin, aux éditions TAC, Motif, 160 pages, paru en 1996. Un ouvrage tout à fait remarquable, avec une excellente bibliographie, et aussi des dessins tout à fait originaux. Ce Pays de Grâce historique, je voudrais vous le faire aimer, et nous allons commencer par des extraits de ce livre, avant de continuer par une exposition qui a eu lieu en 2009, l'Arcadie retrouvée à la municipalité de Grâce. Mais écoutons d'abord quelques extraits de ce livre en Pays Grassois. Pour découvrir le Pays de Grâce historique, nous allons recourir à deux documents. D'une part, un livre, celui de Georges Giblin, en Pays Grassois, publié par les éditions TAC Motif en 1996. Très beau livre qui parle de Grâce et de ses 42 communes qui entourent. Un livre d'histoire, un livre de géographie, un livre d'économie, de démographie, un livre que tout le monde devrait connaître, mais combien le connaissent? En plus, il vous propose 6 circuits. J'ai demandé à Anna de nous donner de très brefs extraits de ce livre pour vous donner le goût de ce que peut être le Pays de Grâce. Ensuite, nous allons recourir à une exposition qui a été réalisée par la médiathèque de Grâce en 2009, l'Arcadie retrouvée. Très belle exposition à l'époque, dont je vous donnerai quelques traces. Mais commençons par écouter Anna.
Une communauté humaine. Ainsi, un simple regard sur la carte nous montre combien est fausse la notion si répandue de limite naturelle. Le Pays de Grâce, comme tous les autres pays, ne s'arrête ni à un sommet, ni à un fleuve. Il regroupe autour d'un centre urbain bâti par les hommes les populations qui ont choisi de s'y retrouver pour leur foire ou leur fête parce qu'elles ressentent entre elles des affinités particulières et parce que leur production économique s'harmonise. Dès lors, les distances, les montagnes ou les gorges à franchir comptent peu. Une économie fort ancienne. Cette combe que Mistral voit comme une veau d'Amor, Palestina, encensée, a déjà changé plusieurs fois de visage quand son héros Calendal la traverse, venant d'Aigloun sur l'Estéron justement pour aller s'embarquer à Cannes. Dès le XIe siècle, les moulins à l'huile d'olive, les fabriques de draps, les tanneries sont en pleine activité. Les prés verts toute l'année au pied de la ville et les immensités des montagnes qui la dominent se connurent harmonieusement pour fournir de la laine aux drapiers et des peaux aux tanneurs. Lorsque ces industries se développeront, il sera aisé par la mer qui prolonge le pays d'importer du levant les peaux nécessaires à une expansion que la production locale ne peut plus satisfaire. La flore du pays apporte aussi sa contribution de façon décisive. Les cuirs de Grâce tannés à la feuille de myrtille et de lentisque jouirent pendant longtemps d'une réputation considérable. Culture. Dès le temps des troubadours, le Pays Grassois est un lieu de culture. Au début du XIIIe siècle, la troupe Aigritz, Nat Dibor, du château de Blacas à Serranon, jouissait d'une grande réputation. Des personnages, comme l'évêque de Fréjus, venaient de loin pour la consulter. Il ne nous reste d'elle qu'une infime partie de son œuvre. La population, mode et moyens d'existence. Il est certain qu'en 1720, les 9000 habitants de Grâce avaient en Provence un poids plus lourd que sa population d'aujourd'hui. Malgré les malheurs de la guerre 1707, les dégâts du gel de 1709, la population n'a pas baissé ici, alors que Draguignan est passé de 9000 à 5000 habitants et Aix n'a pas aujourd'hui le quart des habitants qu'elle avait il y a 20 ans, écrit le subdélégué en 1719. Le pays a su, au prix d'un gros effort, se protéger de la peste de 1720. Le pays a su, au prix d'un gros effort, se protéger de la peste de 1720. Des mesures strictes furent prises dès que le fléau sévissant à Marseille fut connu. Des chandelles furent fournies au corps de garde le long de la rivière Siagne et à la garde des trois portes de la ville. Honoré Fabre, trésorier, établit un état des dépenses concernant la santé et la contagion. Surveillance à la malle, au Brunet. Madame de Tournon est dédommagée pour des dégâts à ses bois pendant la garde au pont du Tournon, au sujet de la contagion. Est établie la composition du corps de garde sur la Siagne et dépenses. Il fut interdit de délivrer des billets manuscrits à cause de l'inconvénient survenu à Marseille. Des gardes sont postés aux entrées de la Viguerie de Grasse. Un autre état de dépenses, au sujet de la contagion, concerne les environs, Cabrise, Valbonne, etc. De ses fabriques et de son commerce. La campagne semble ne pas souffrir encore des érosions consécutives à de trop forts défrichements. Cependant, le cheptel poussé à son plus fort développement ne suffit plus, et de loin, à fournir la matière première de l'industrie principale, la tannerie. Les importations de peaux et les exportations de cuir de haute qualité alimentent un commerce très actif. Mais, dès lors, une partie de la plus-value est placée dans des participations pour l'armement de bateaux marseillais. Parallèlement, une concentration industrielle se produit. Les taxes royales et la concurrence déloyale mettront un demi-siècle pour ruiner cette industrie. Dans le même temps, naît une nouvelle activité, utilisant de bien plus faibles quantités de peau et conduisant à une bien plus forte valeur ajoutée. C'est celle des gantiers parfumeurs. Leur jurade, fondée en 1724, voit ses statuts homologués par le Parlement de la Provence du 11 février 1729. Les gantiers parfumeurs sont alors 21, trois lustres plus tard, en 1745, ils seront 70. La mode est alors au cuir parfumé. Cette nouvelle corporation se veut entièrement séparée de celle des tanneurs et à la différence de celle-ci, enfermée dans ses statuts, elle ne cesse d'innover. En 1750 est inventé l'enfleurage à froid. Les pétales de fleurs sont déposés sur de la graisse très pure qui prend leur parfum et aboutit aux pâtes parfumées très à la mode. On fabrique aussi des poudres parfumées et des savons à l'iris et à la rose. On le voit, l'industrie des parfums est née. Pour deux siècles, elle va donner du travail aux paysans comme aux ouvriers et faire de Grasse la capitale de la parfumerie. En effet, cette industrie se fonde sur des conditions naturelles de sol et de climat très favorables. Le jasmin, la rose, l'oranger, le mimosa, la tubéreuse peuvent être produits en quantité et en qualité remarquable sur l'état grassoise. En 1950, la commune de Grasse comptait encore un nombre égal les familles paysannes et les familles ouvrières. Et l'activité de production des plantes à parfum était un lien solide entre les habitants du pays grassois, depuis les orangers et les violettes de Tourette-sur-Loup, à l'est, jusqu'aux roses et aux lavandes de Seyan, à l'ouest.
Pour découvrir le pays de Grasse historique, nous allons faire une deuxième approche.
D'une part, un livre,
celui de Georges Yblin. Voilà, maintenant, pour trop aborder le pays de Grasse historique, parlons de l'Arcadie retrouvée. Ça a été le titre de la très belle exposition de 2009, mais c'est aussi tout simplement une très belle expression utilisée par Francis de la Miomandre, 1880-1959, lauréat du prix Goncourt en 1911. Il y affirme qu'il n'a jamais compris l'Antiquité avant de connaître la campagne grassoise. Vous vous rendez compte, chers auditeurs ? Initialement, je vous le rappelle, l'Arcadie est une région de la Grèce antique habitée par des bergers qui vivaient en harmonie avec la nature. L'Arcadie retrouvée, ce sont des poètes, des peintres, des écrivains, des musiciens. En un mot, la création artistique. L'Arcadie, lieu de retraite, pour beaucoup, plus encore lieu de retrait, pour aller à l'essentiel. Dans le pays de Grasse, dans ce pays de Grasse historique, j'insiste, que de traces dans les paysages. Que de témoins, que de témoignages. À titre d'exemple, par exemple, Jean Giono, qui parlait dans l'Arcadie, édité en 1953, de cette certaine Provence, contraire à bien des idées reçues, et aussi, je cite, à ce qu'on appelle bêtement la Côte d'Azur. André Gide, qui a résidé à Cabris, et à sa relation avec Jean Giono, Erwin Sutter, 1897-1974, c'était hier, artiste originaire d'Alsace et animateur de la vie culturelle et artistique de Grasse dans les années 50-60, Georges Hébert Wells, qui écrit ceci « J'ai décidé de m'établir dans un coin tranquille, entre des collines, et de rester là, loin des tracasseries quotidiennes de ma vie, pour mener enfin une vie très simple, loin de la vie mondaine de la Côte d'Azur. » Cet auteur, Georges Hébert Wells, écrit aussi, écoutez bien, la course est désormais engagée dans notre civilisation entre l'éducation et la catastrophe. Si nous ne gagnons pas la bataille, y aura-t-il seulement un 21e siècle pour notre civilisation? Quelque temps après, George Friedman, qui écrit à Cabris son très beau livre La puissance et la sagesse, en 1970, a cette dernière phrase de son livre, écoutez, l'éducation véritable, son succès ou son échec, commande l'avenir de l'homme. En octobre 2015, Georges Edgar Morin vient à Cabris, là où il a résidé, lui rendre hommage, car c'est à Georges Friedman qu'il doit sa rentrée au CNRS. Tant de lieux, tant de maisons, à Cabris par exemple, la maison de Marie de Saint-Exupéry, celle d'André Gide, la Mésuguerre où ont résidé tant d'écrivains. Mais partout dans ce pays de Grasse historique, y compris dans le canton de Fayence, dont nous allons parler dans la deuxième partie, surtout grâce à Claude Durand, eh bien, il y a des traces partout. Des traces de 2000 ans d'histoire, qui est le titre de son livre pour Fayence, mais aussi de 2000 ans d'histoire dans ce pays de Grasse historique, qui parfois, je vous le confie, me donne l'impression d'oublier son patrimoine, alors que ce patrimoine appartient non seulement à ses habitants, mais aussi, je le dis, à l'humanité. Il serait bon de nous en souvenir au moment où le parfum va devenir un patrimoine immatériel de l'humanité. Et permettez-moi dans cette émission de faire 5 propositions, toutes simples, pour essayer de garder ce patrimoine. La première, c'est que dans chaque village, souvent devenu ville, c'est-à-dire de plus de 2500 habitants, soient mis en valeur les auteurs. Là, dans une librairie, là, chez un marchand de journaux, là à la poste, là dans les offices de tourisme ou dans ces bureaux qui, hélas, désormais, leur succèdent. Et proposer que les acheteurs, souvent des touristes, puissent rencontrer l'auteur et, pourquoi pas, faire dédicacer le livre. La deuxième proposition, c'est que soit publié un ouvrage de synthèse sur ce pays de Grasse historique, tant de données, tant de matériaux peu connus et dispersés. La troisième proposition, c'est que soit recensé par un groupe de travail une liste d'études et de recherches à concevoir pour le XXIe siècle sur ce pays de Grasse historique. La quatrième, c'est que chaque année soient organisés les entretiens du pays de Grasse historique, Ces entretiens seraient un hommage à tous les arts. Et donc, en plus de l'écrit, à la musique, à la photographie, à la peinture, au dessin, à la sculpture, au cinéma, au théâtre, etc. On peut imaginer aussi une section dans un musée existant, et pourquoi pas des antennes dans les 42 lieux du Pays de Grasse, avec en plus Grasse. Enfin, la dernière proposition va peut-être vous surprendre, mais j'ose vous la confier. Que soit créé le Collège des sciences, des arts et des lettres du Pays de Grasse historique. Pour cela, il existe un projet très concret. Je dois vous dire que je connais, dans ce Pays de Grasse historique, des auteurs, des artistes, des scientifiques qui ont tout à fait leur place dans ce collège, qui pourraient jouer un rôle remarquable. Alors, oui, le parfum sera contextualisé, il prendra sa saveur, ses odeurs, ses essences, tout simplement son sens. Voilà le souhait que je formule dans cette première partie de l'émission consacrée au Pays de Grasse historique. Mais nous avons en studio déjà Claude Durand. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Alors Claude est un auteur qui nous vient de Fayence et qui va nous présenter deux de ses livres sur Fayence dans la deuxième partie. Mais Claude, une première question. Vous n'êtes pas un ancien de Fayence, vous êtes venu à Fayence. Pourquoi ?
Oh, par... Je recherchais un endroit pour sculpter, au départ, pour revenir et être en dehors des villes. Je revenais de Paris et je me suis fait embrigader, si vous voulez, par l'ancien maire, et qui était un passionné du patrimoine, et je me suis lancé là-dedans. Et j'ai découvert ce pays par hasard. Et j'en étais amoureux immédiatement. Ça fait 45 ans que j'y habite. C'est quand même déjà un bail.
Alors, vous avez un parcours tout à fait atypique. HEC, vous résidez, vous travaillez, vous êtes né au Maroc, vous habitez le Maroc, puis vous habitez Paris, vous venez dans cette région. Et j'insiste sur une caractéristique qui me frappe beaucoup chez les auteurs que je reçois, c'est cette double culture. Une culture que j'appellerais professionnelle, HEC, qui vous conduit dans des affaires, etc. Et une culture artistique dont vous nous dites quelque chose que je ne connaissais pas de vous, en dehors des écrits que vous avez faits, dont nous parlerons dans la deuxième partie, la sculpture.
Ben, c'est-à-dire qu'au départ, si vous voulez, mon père était préfet de police au Maroc. Et pour lui, tout ce qui était artiste, ça ne comptait pas. Il fallait que nous ayons une certaine formation plus professionnelle. C'est ce que, au retour de Paris, du Maroc, j'ai fait à Paris. Et donc, j'ai commencé à travailler. Et je suis rentré à l'époque aux forges aciéries du Creusot en tant que directeur de commercial. Et j'ai continué quand même à sculpter. J'ai fait des expositions à Paris. Et ma dernière exposition ici dans la région a été en 2005. Et j'ai arrêté maintenant totalement.
Claude, nous allons reprendre cet échange dans la deuxième partie de l'émission. Après les informations, nous allons écouter notre générique. Je vous donne rendez-vous dans 10 minutes à peu près. Mais si le générique ne vient pas, ne vous tracassez pas, vous allez avoir directement les informations. Continuons, chers auditeurs, la découverte du Pays de Grasse historique, j'insiste, parce que 42 communes autour de Grasse, j'ai l'impression que ce pays est de moins en moins connu, alors qu'il porte des traces, des valeurs absolument extraordinaires. Avant de quitter Grasse, pour nous orienter vers deux auteurs que j'ai choisis à la périphérie du Pays de Grasse historique, est-ce que je peux vous rappeler que Grasse a un charme trop méconnu ? Stendhal lui reconnaît de passage un charme qu'il n'avait jamais rencontré. C'était en mai 1938. Est-ce que vous savez que Bounine, qui a eu le prix Nobel de littérature, a appris dans un cinéma de la ville de Grasse qu'il était auteur du prix Nobel qui venait d'être donné ? Monterland, Valéry, Miller, Henri Miller, le grand, passant à Grasse, écrit ceci. Grasse dépasse tous les endroits que j'ai rencontrés. Une décrépitude surprise, surprenante, mais superbe et très vivante. Sartre, qui rencontre Gide, Il le rencontre aussi à Cabris. Colette, est-ce que vous savez que dans Les Misérables, Jean Valjean, il trouve du travail dans une parfumerie? Et je pourrais continuer comme ça, indéfiniment. Nous sommes dans un pays, l'Arcadie retrouvée, merveilleux. Combien il faudrait qu'il soit encore vivant, que ça soit non seulement un lieu de retraite, mais un lieu de retrait pour s'occuper de l'essentiel, peut-être des arts. Alors, chaque village, 42 plus Grasse, ont au moins un auteur, un livre sur leur histoire. C'est vous dire si j'avais le choix pour cette émission. J'en ai retenu deux. Claude Durand, que je vous ai présenté brièvement, sur lequel je vais surtout m'entretenir dans cette deuxième partie, qui vient de Fayence, sous-ensemble du Pays de Grasse, historique, beaucoup trop oublié, et pourtant un canton, puisque le canton de Fayence maintenant existe, si beau. Donc Claude nous en parlera longuement. Et puis le deuxième livre, c'est le livre de Simone Merle-Rossi, pour son livre « Roquefort en Provence, souvenirs d'antan ». Alors, cette femme, dont je ne dirai pas l'âge, mais un âge d'une grande sagesse, je sais, on peut être sage à tous les âges, mais là, c'est une sagesse grande, n'a pas souhaité être présente dans cette émission. Par pudeur, j'ai pourtant insisté, mais j'ai compris que c'était inutile. Pour elle, parler à la radio, c'était trop lui demander. Alors, madame, je vais rendre hommage à votre livre. Il est beau, fort bien illustré, j'y reviendrai dans un instant. Vous avez, madame, produit un ouvrage dont vous pouvez être fière. Chaque famille de Roquefort devrait avoir au moins un exemplaire. Il est un cadeau magnifique pour un baptême, un mariage. Il est pour chacun, peu importe où il habite, une référence du passé, pour notre passé si proche et pourtant si vite oublié. Vous avez une couverture qui est très très belle et vous avez, j'allais dire, une citation que je reprends de Mistral. Vous l'écrivez d'abord en provençal et puis pour nous tous, chers auditeurs, elle est extraite du Chanson des aïeux. Ils ont vécu, ils ont tenu autant qu'ils ont pu. Ceci a été écrit en 1906. Merci, madame, d'avoir pris cette belle citation. Et pour vous, si vous permettez, Claude, qui est présent en studio, je reprendrai aussi, pour vous, deux citations qu'il a prises dans un de ses livres sur les rues de Fayence, mais j'y reviendrai tout à l'heure en finissant l'émission. Plus largement, madame, j'ai découvert dans votre livre plein de choses que moi, dans un village de l'ouest de la France, j'ai connues. Mais en particulier, page 83, vous m'avez conduit à une découverte. Vous écrivez en effet ceci. Un baptême ne passait pas inaperçu. Tous les galopins du quartier, et même de plus loin, ne manquaient pas de s'en tenir informés. Ils étaient là, à la porte de l'église, à attendre avec impatience, car il est d'usage que le parrain jette à la volée des poignées de petites pièces et des bonbons. Dès leur apparition, ils étaient assaillis par une meute hurlante. Chère madame, je dois vous dire que j'étais aussi, dans mon village, un galopin dont vous parlez. Je voudrais enfin rendre hommage à celui qui a conçu votre livre, André, le directeur des éditions de Bergier. C'est un livre remarquablement illustré, très bien construit, comme une grande maison d'édition. Et je voudrais rendre hommage à André, justement, qui est à la fois le directeur, un artiste, un éditeur compétent si humain, un très beau travail. Et à vous, madame, encore une fois, je rends hommage. Vous avez produit un livre de mémoire, d'histoire, qui pour chacun permet de retrouver ses racines et d'en être fier. Merci, madame. Claude, vous résidez à Fayence, pour laquelle vous avez eu un coup de cœur, et vous avez écrit 4-5 ouvrages dans votre vie, dont 3 sur Fayence, c'est bien ça, et en particulier 2 que j'ai devant moi, Fayence, 2000 ans d'histoire, et les rues de Fayence. Alors, vous qui résidez à Fayence, pouvez-vous, en quelques minutes, nous résumer ce travail Fayence 2000 ans d'histoire? Je crois qu'on ne peut pas trouver mieux, à la fois dans les photos, dans ce que vous écrivez, dans la texture du livre, en tout, vous avez des choses absolument extraordinaires. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce livre.
L'histoire de ce livre est partie, si vous voulez, parce que, comme vous venez de le dire, les gens des villages ne connaissent pas leur village, ne savent pas les anecdotes, etc. Donc j'ai essayé de récolter auprès d'anciens toute une documentation de manière à recréer et faire apprendre cette histoire du village. Effectivement, on est parti sur différentes choses. Le dernier est beaucoup plus pointu, puisque c'est plutôt un livre de toponymie, où on recherche les origines des noms. L'origine des noms de quartiers, des noms de rues. Certains noms sont récents ou datent de la fin du 19e. D'autres sont... Par contre, les noms de quartiers sont plus difficiles à découvrir. Certains quartiers, je n'ai pas pu savoir auprès des gens, dans les dictionnaires, etc. Je n'ai pas pu trouver l'origine. Je vous citerai par exemple le quartier du Pré-Lavite. Le quartier du Pré-Lavite, c'est déjà le mot Lavite s'écrit de deux. On le trouve écrit de deux manières. L-A-V-I-T ou L'A-V-I-T. Le pré, bon, c'est un pré, c'est un grand champ. Voilà. Et si je le demande d'ailleurs en fin de mon livre, si des gens connaissent certains noms, ont une documentation, peut-être peuvent m'aider à compléter un peu plus ce travail. Voilà à peu près ce que je peux vous en dire.
Alors, j'imagine que vous avez réuni une documentation qu'on ne retrouve pas entièrement dans votre livre. Non. Par exemple, Marguerite Yourcenar a bien été à Fayence.
Alors, Marguerite Yourcenar a fait un passage à Fayence, mais un passage surtout pour être au calme. Elle avait certainement préparé auparavant son livre « Les mémoires d'Adrien ». Et c'est à Fayence qu'elle va les rédiger. Effectivement, elle a loué pendant une année une maison dans le village où elle a séjourné dans le calme pour être un peu éloignée de ses amis, de sa famille, pour être très tranquille.
Alors, dans votre livre, page 223, par exemple, vous me rappelez un grand moment. Le 24 mars 1860 est une date très importante, écrivez-vous, pour la France, mais aussi pour le Var, car ses frontières seront changées. C'est le rattachement de Nice à la France et la création du département des Alpes-Maritimes. Le département du Var perd son fleuve et les arrondissements de Grasse, de Cannes et d'Antibes. C'est à un moment donné incroyable.
Absolument. Et là, on revient, si vous voulez, à la toponymie. Lorsque les départements, tout de suite après la Révolution, en 1792, les départements français sont mis en place. Et il fallait leur donner un nom. Le nom, bien souvent, c'était la rivière. Et le Var, la rivière du Var, séparait le comté de Nice... Nice-Savoie et le Var. N'oublions pas que Grasse est dans le Var à l'époque. Grasse, Cannes, Antibes sont dans le Var. Et Grasse, pendant une période, je ne saurais vous dire exactement la date, va être préfecture du Var. C'est important.
Oui, c'est tout à fait important. Mais si on navigue dans ces 2 millions d'histoires, on voit aussi le rôle des Romains, et puis alors le rôle de grands monastères, dont en particulier les Reims.
Oui, bien sûr. Alors, les Reims, l'histoire, si vous voulez, fait que toute la partie Fréjus, Mandelieu, jusqu'après Clavier, cette région appartient à la mère de l'abbé Mailleul, qui sera le grand abbé de Cluny, de l'abbaye de Cluny. Cet abbé, son cousin Germain, Monseigneur Riculf, en 1798, je crois, est évêque de Fréjus. Et on est à la fin, si vous voulez, des batailles de Sarrasins, etc., qui ont bien abîmé la côte et les îles de l'Hérens et le monastère qui avait été créé par Saint Honorat, qui avait racheté cette île. Il ne faut pas oublier que le monastère de Saint Honorat a eu, je crois, jusqu'à 3000 prêtres. C'est énorme. C'était très important. Et il faudra attendre. Saint Honorat va perdre pendant un laps de temps son autonomie parce que c'était Cluny qui les avait englobés. Et ils reprendront leur autonomie par la suite une trentaine d'années après.
Voilà, mais les traces de l'Hérens sont partout ici.
Voilà.
Alors, ce canton de Fayence a un tas de relations avec Grasse. On peut parler des Villeneuve, par exemple.
Oui.
Hein? C'est une relation que peu de gens connaissent. Il y a un Villeneuve qui a été trouvé sa femme à Fayence, c'est bien
oui,
ça.
C'est ça. Ben, à l'origine des Villeneuve de Grasse se situe à Tourette. C'est un des premiers Villeneuve. Qui va venir s'installer à Grasse. Grasse donnera ensuite un Villeneuve au château de Beauregard, qui appartient au comte de Clarens. Et lorsque le Villeneuve de Grasse va perdre sa femme, il va épouser une jeune femme qui est originaire de Fayence, qui va venir vivre ici à Grasse. Ils auront 10 enfants, et le dernier sera prêtre et va revenir à Fayence, parce que le comte de Villeneuve de Grasse est décédé, et cette femme va épouser un notaire à Fayence, la famille Digne. Ce sont des notaires qui, de père en fils sur plusieurs générations. Et cet enfant, prêtre, va être curé de Fayence, n'abjurera jamais pendant la Révolution. Il va être prêtre, il sera maire de Fayence, il va quitter Fayence pour aller à Verdun. Il sera évêque et reviendra à Fayence après le départ des troupes napoléoniennes, car l'église de Fayence, à cette époque, était devenue un hôpital.
Vous voyez, Claude nous parle et pourrait rester des soirées entières avec lui pour parler Fayence 2000 ans d'histoire et puis l'autre livre, Les rues de Fayence, histoire et origine. Claude, où trouver ces livres?
Alors, à l'heure actuelle, je suis un peu gêné. Alors, à l'office de tourisme de Fayence, enfin, au bureau intercommunal de Fayence.
Le nom de l'office.
Le nouveau nom de l'office, puisque tous les offices sont partout en France, sont pris par les communautés de communes ou les agglomérations de communes, etc. Donc, vous pouvez les trouver à l'office, une grande surface à Fayence. Malheureusement, il y a une petite librairie qui était là et dont le propriétaire a fermé boutique à cause de maladie. Et peut-être trouverons-nous quelqu'un d'autre pour le remplacer, je ne sais pas.
Je le souhaite, car c'est deux très très beaux livres, très agréables à lire, fort bien présentés, et je pense qu'on ne peut plus aller à Fayence, on ne peut plus aller dans le canton de Fayence, on ne peut plus aller dans ce sous-ensemble du Pays de Grasse historique sans connaître vos deux livres, car ce sont véritablement deux guides. Mais parlons d'autre chose, vous êtes aussi un des responsables, un des animateurs du Salon du Livre de Tourette, dont le titre est « Lecture et lecteur », qui aura lieu, je crois, le 30 juillet.
Le 30 juillet cette année, oui. C'est un dimanche. Nous avons donc une trentaine d'auteurs qui seront présents. Et cette année, nous essaierons de réunir, si vous voulez, des petits groupes de lecteurs qui existent dans tous les villages autour de chez nous. À Fayence, il y a un groupe de lecture qui discute d'un livre. Il y a également un groupe de poésie. À Tourette, il y a un café philo. À Montourou également, vous voyez. Alors donc, tous ces groupes qui s'ignorent les uns les autres, malheureusement, puisqu'on en, j'ai pu en discuter avec quelques personnes. Et je voudrais qu'on les réunisse ce jour-là de manière, ce qui permettrait pour eux de contacter, d'avoir avec eux des auteurs, mais également avoir les lecteurs qui voudraient être avec, rentrer dans leur groupe.
Alors, je trouve votre initiative tout à fait passionnante. L'Agence régionale du livre nous disait récemment que le nombre de salons du livre dans la région PACA diminue. Mais moi, je vois de nouveaux bourgeons. Vous en êtes un sur ce salon du livre Lecture et Lecteur, qui est très original. Il y en a un autre à Roquefort, en Provence, dont on parlait à l'instant, le salon des auteurs, qui est en train de se mettre en place. Pour avoir des informations, Claude, on doit s'adresser à vous. Vous avez un téléphone ?
C'est le 04 94 76 03 17.
Je reprendrai ce numéro de téléphone dans la note de synthèse. Un immense merci et j'imagine que vous avez encore des projets.
Toujours.
Bon, c'est formidable. Alors, dans l'émission de février, qui aura lieu le 24 février, je vous parlerai des émissions de mars. Il y en aura trois. Et ça s'appellera pour la première fois les triades de cette émission Paroles d'écriture. Et les premières triades, c'est-à-dire trois émissions de suite, se feront avec des gens venus de cette région sur le thème décadence et renaissance. À propos du livre de Michel Onfray, mais nous sortirons du livre pour aller beaucoup plus loin. Et ça sera Edgar Morin qui clôturera cette première triade de paroles d'écriture. Et puis, au mois d'avril, c'est-à-dire dans l'émission du 28 avril, nous ferons une émission avec des gens de l'Afrique et des associations de la région sur le thème « L'avenir se joue en Afrique ». Et pour vous y préparer, chers auditeurs, je vous invite aux rencontres sur le Togo qui aura lieu le 10 et 11 février. La première rencontre sur le Togo aura lieu le 10 et 11 février de 9h à 18h au château de Montsartou. Le samedi matin 11 février, ça sera sur le thème de l'éducation et de la culture et je serai personnellement présent. Nous parlerons donc de cette Afrique dont je rappelle que Conakry en Guinée a été choisie comme la capitale mondiale du livre pour 2017. Et nous, modeste émission, nous avons engagé avec quelques partenaires une opération « 1000 livres pour l'Afrique ». Il y en a déjà 300 de réunis. Continuons, vous serez les bienvenus. Alors voilà, se termine cette émission sur notre générique. Merci Claude et à vous, chers auditeurs, de découvrir le pays de grâce historique dans toute sa richesse, pour le passé, pour le présent, mais aussi incontestablement, grâce à vous, pour son devenir. Merci.